France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
En 2023, la France a été le 7e pays qui a eu le plus recours à la chirurgie et à la médecine esthétique. Comment un tel engouement s'explique-t-il et quelles sont les méthodes utilisées ? La pratique est ancienne, on en trouve des traces dès l'Égypte antique. Depuis que la Société française de chirurgie esthétique a vu le jour en 1953, la discipline ne cesse de se développer. Ces 10 dernières années, elle connaît de grands progrès. Qu'il s'agisse de reconstruction mammaire pour des patientes atteintes d'un cancer du sein, de chirurgie transgenre, de chirurgie plastique, pour les grands brûlés, des victimes d'accidents, de maladies, de malformations, bien que la reconstruction de la peau reste un défi complexe, quelles sont les innovations récentes et celles à venir dans ce domaine ? La chirurgie plastique fait peau neuve. David Bocara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier, chirurgien plasticien à l'hôpital Saint-Louis, chercheur associé à l'unité INSERM 976 et coordinateur pour le DES de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Et en duplex depuis ici, Loire-Océan, bonjour Brigitte Drénaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur de dermatologie, directrice de recherche INSERM, co-directrice d'un contrat de recherche dans le domaine de la régénération cutanée des brûlés. Et bonjour Yann Cornillier.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine de l'INSERM avec comme grand angle pour ce dernier numéro chirurgie plastique, guérir en beauté. Vous co-animerez à mes côtés cette émission, une émission qui est donc en partenariat avec l'INSERM. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment la chirurgie permet-elle la reconstruction du sein ou de la peau ? Quels sont les patients concernés ? Et comment ces pratiques sont-elles encadrées ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, à quel point ces interventions sont-elles courantes ? La question est posée en 1951. C'est notre archive du jour.
Ce qui est devenu courant aujourd'hui, ce sont surtout quatre interventions principales. Premièrement, les seins. Deuxièmement, le décollement des oreilles. Troisièmement, la forme du nez. Quatrièmement, les poches sous les yeux. À côté de cette monnaie courante de la chirurgie esthétique, les chirurgiens spécialisés dans cet art se trouvent évidemment devant d'autres problèmes plus difficiles. C'est lorsqu'il s'agit d'accidenter, de brûler ou de blesser de guerre. C'est ici qu'interviennent les greffes et c'est ici aussi qu'intervient l'art véritable du chirurgien. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'aux cas les plus dramatiques pour déceler les bienfaits de la chirurgie plastique. Combien d'êtres humains qui avaient leur existence empoisonnée par un nez mal formé ou toute autre malformation du visage. Aujourd'hui, le chirurgien spécialisé fera disparaître ce nez camard, ses joues déplaisantes, ses oreilles en chou-fleur, ses lèvres trop épaisses. N'exagérons rien d'ailleurs, l'art chirurgical ne remplacera jamais un nez parfait dès la naissance et une bouche bien dessinée vaudra toujours mieux que celle que sculptera le bisturi du chirurgien. Mais notre époque voit des corrections qui valent toujours mieux, elles aussi, que ce que la nature parfois méchante donne à certains hommes et à certaines femmes. Ce qu'il faut bien dire, c'est que la chirurgie plastique n'en est qu'à ses débuts. Ce que l'on fait aujourd'hui fera sourire dans 50 ans. Comme toute science, la chirurgie plastique a sa mission, on peut être sûr qu'elle la remplira.
Voilà un extrait de l'émission L'heure de culture française diffusée en 1951 sur la RDF. David Bocara, alors est-ce que cette chirurgie plastique des années 50 vous fait-elle sourire aujourd'hui ?
Bah finalement pas tant que ça, parce que je pourrais dire que ce reportage qu'on a écouté là est d'actualité toujours aujourd'hui. Je pense qu'on en est encore qu'aux prémices finalement de tout ce qu'on pourra faire. Alors bien entendu, il y a eu énormément d'évolutions au fil des années, mais on a la chance de pratiquer une discipline qui est en constante évolution et en constant progrès. Et finalement, ça me fait sourire, mais pas de manière péjorative, plutôt pour dire que ce qui était dit à l'époque est encore d'actualité aujourd'hui.
Brigitte Drénaud, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive ?
J'ai un peu la même réaction. Je me dis que finalement, la grande majorité des interventions qui étaient pratiquées à l'époque, on les retrouve aujourd'hui. Certes, les techniques ont évolué, il y a eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là, mais le principe et les demandes, elles restent très proches.
Yann Cornillier ?
Oui, alors peut-être la différence par rapport à aujourd'hui, c'est que effectivement dans les années 50, c'était encore très axé sur la réparation et la chirurgie, et peut-être ce qu'on n'avait pas encore vu venir, c'était la médecine esthétique, donc tous les actes qui ne sont non chirurgicaux, c'est-à-dire tout simplement les injections d'acide hyaluronique, de toxines botuliques, et ça c'est venu bien plus tard, et c'est une grande partie quand même des actes esthétiques qui sont donnés en France aujourd'hui.
Peut-être justement ces moments pour y voir un peu plus clair, David Bocara, de définir quelle comment la médecine esthétique se distingue-t-elle justement de la chirurgie esthétique, plastique ou reconstructrice ?
Alors la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, c'est une discipline à part entière, c'est une chirurgie à part entière, c'est une surspécialisation une fois le diplôme de tenue de chirurgien général. Et la médecine esthétique, je dirais que c'est, comme l'avait dit le professeur Drainaud dans le magazine, c'est plutôt un ensemble d'actes pour le coup, qui ne sont pas pratiqués par des chirurgiens, qui peuvent l'être, qui le sont au quotidien par des chirurgiens, mais qui peuvent l'être aussi par des médecins, des dermatologues, et de manière un peu plus occasionnelle par des médecins généralistes aussi aujourd'hui.
Brigitte Drainaud.
Je dirais juste pour compléter que effectivement la chirurgie plastique c'est une discipline à part entière. Vous n'avez pas aujourd'hui la médecine esthétique n'est pas considérée comme une spécialité. Il faut avoir une réalité. Donc vous pouvez être certes dermatologue parce qu'on a une formation pour cela, mais vous pouvez être médecin généraliste. Vous pouvez appartenir à d'autres disciplines et pouvoir faire de la médecine esthétique. Donc il y a une grosse différence.
Donc du côté, en tout cas, des pratiques les plus courantes, on entendait en effet quelles étaient ces pratiques en 1951, mais aujourd'hui, David Bocara, voilà, selon la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique, la France se place donc à la 7e place dans le classement mondial. Du côté de la médecine esthétique, donc sans intervention chirurgicale, quelles sont les pratiques les plus courantes, les plus utilisées aujourd'hui ?
Ben, très majoritairement, les injections d'acide hyaluronique et les injections de toxines botuliques. Donc plutôt pour des gestes de rajeunissement facial.
Ça c'est côté en effet médecine esthétique. Et côté pour intervention chirurgicale.
Pour la chirurgie, ça n'a pas changé. Beaucoup d'interventions du visage, des blépharoplasties, donc une chirurgie sur les paupières, les liftings cervico-faciaux, donc les liftings du visage. Et je dirais que les trois autres interventions qui sont les plus pratiquées, donc la chirurgie mammaire, donc qu'elle soit d'augmentation, avec des prothèses, avec des injections de graisse ou de réduction, et tout ce qui est lipoaspiration, lipomodelage de la silhouette, la plastie abdominale, voilà, tous ces gestes-là, et finalement qui sont les mêmes, et finalement les problématiques d'antan sont les mêmes aujourd'hui et demeurent les mêmes. Donc.
Brigitte Drainaud, où donc se place la frontière entre un acte thérapeutique et un acte purement esthétique finalement ?
Alors c'est une très très bonne question. Et auquel aujourd'hui on essaye en fait d'y répondre. Et je dirais que lorsqu'on est dans un acte thérapeutique, on a posé un diagnostic. Donc au niveau de la peau, qui est ma discipline, ça veut dire que j'ai une lésion cutanée et je pose un diagnostic sur lequel je vais faire une approche thérapeutique, donc esthétique. Lorsque je suis à prendre en charge le vieillissement cutané, c'est physiologique, et là, je vais faire un acte esthétique, mais qui va pour moi être différent d'un acte thérapeutique esthétique.
Yann Cornillier.
Oui, peut-être préciser que ces actes esthétiques représentent quand même près de 900 000 actes par an en France, et que si on ajoute les actes réparateurs, entre guillemets plutôt, on arrive jusqu'à 1,5 million d'actes. Donc c'est quand même une discipline qui n'est pas du tout anecdotique et qui prend énormément d'ampleur dans la médecine et la chirurgie aujourd'hui.
David Bocara, votre regard vous aussi sur cette frontière entre thérapeutique, esthétique ?
Alors moi j'ai toujours eu du mal à poser une frontière entre les deux, déjà de par ma discipline et de la polyvalence qu'elle engendre. Nous travaillons de la même manière, moi j'ai le même regard sur une femme qui viendrait pour une reconstruction mammaire ou une réduction mammaire, ou une augmentation mammaire. Pour moi, il y a un mal-être finalement physique qui va avoir un retentissement psychologique qui peut paraître certes dérisoire pour certains, ou minime pour d'autres, mais dans tous les cas, c'est le retentissement psychologique finalement, et qui peut du coup engendrer une gêne sociale, une gêne dans la sphère privée, dans la sphère familiale. Et donc finalement, améliorer l'enveloppe, on va dire charnelle, l'enveloppe extérieure, quelle que soit la forme, quel que soit le procédé qu'on va utiliser, va apporter un tel bien-être que moi j'ai l'impression de réparer ou de rendre meilleur chacun. Et si au bout de tout ça, les patients se sentent mieux et plus épanouis dans leur vie, voilà, j'ai l'impression que j'ai effectué un acte, quel qu'il soit, et qui a une portée à la fois esthétique et thérapeutique. On peut imaginer vivre sans reconstruction mammaire, puisqu'aujourd'hui, il y a par exemple 70% des femmes qui ne veulent pas en bénéficier, ou qui ne peuvent pas pour certaines. On pourrait aussi dire, tiens, c'est pas indispensable. La preuve, c'est qu'il y a des pays où il n'y a pas de prise en charge pour ça, il n'y a pas de remboursement. Et pourtant, il y a une souffrance derrière. Et je pense que, comme le disait le petit reportage au début, quelqu'un qui va souffrir avec un nez qui va être disgracieux ou certaines zones de son corps, la souffrance psychique, on sait que le cerveau, c'est le muscle le plus puissant du corps, hein, c'est ma vision des choses. Et finalement, améliorer cet aspect-là, ça va rendre service à tout le monde. Donc je dirais que c'est à la fois très loin et très proche dans mon esprit.
Oui, puis en plus, d'un point de vue des méthodes, selon vous, la chirurgie reconstructrice, suite à une pathologie comme un cancer du sein, a beaucoup bénéficié des travaux en chirurgie esthétique notamment.
Je dirais que...
Il y a des allers-retours
voilà,
comme ça.
Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de pratiquer les deux. Et on sait que par exemple, pour la reconstruction mammaire, aujourd'hui, on en fait beaucoup avec des techniques de réinjection de graisse. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'utiliser cette graisse en reconstruction mammaire ou chez les patients qui avaient des fontes graisseuses quand ils prenaient certains traitements, notamment contre le VIH, l'idée première, c'est un Français d'ailleurs, Cocorico, qui a mis au point la première technique, Ilouze, qui a eu l'idée pour la première fois d'utiliser des canules de lipoaspiration, et c'était à visée esthétique au départ. Donc on voit que même de l'esthétique, beaucoup de progrès permettent de mieux prendre en charge les patientes, même d'un point de vue plus, entre guillemets, thérapeutique.
David Bocara, c'est aussi l'occasion de faire un point sur cet aspect historique, sur comment cette discipline s'est forgée au cours du temps.
Alors, c'est une discipline qui est, je dirais, presque ancestrale. On a retrouvé des écrits, je crois, plus de 8 ou 9 siècles avant Jésus-Christ, l'époque indienne ancienne, où ils parlaient déjà de grève de peau. On sait qu'à l'Égypte ancienne, on a retrouvé certains hiéroglyphes, certains dessins où était évoqué tout ce qui était rhinoplastie. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui parce que c'est pas une chirurgie qui est anodine, mais voilà, c'est quelque chose qui a très longtemps porté. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Alors on sait qu'au Moyen-Âge, ça a été un peu interrompu par l'essor du christianisme, Innocent III qui finalement avait interdit la chirurgie, même dans son ensemble. Et puis le siècle des Lumières, la Renaissance, les progrès aussi, ont fait que ça s'est amélioré. Et le grand boom, il y en a eu deux pour moi. Il y en a un premier au 19e siècle avec la découverte de l'asepsie par Pasteur. Et puis surtout la mise au point de l'anesthésie générale qui a quand même permis énormément de choses d'un point de vue large en chirurgie. Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale où il y a eu ce qu'on appelle les gueules cassées avec beaucoup de soldats qui revenaient du front avec d'énormes déformations, des infirmités importantes. Et c'est là qu'on a créé en France et à l'étranger, hein, mais beaucoup en France, des unités de chirurgie maxillofaciale et de chirurgie reconstructrice pour venir en aide à ces grands infirmes de guerre. Donc, si vous voulez, les progrès, ils se sont faits un peu par vague, par époque. Et puis, il est évident que les années 70-80, avec toute la biotechnologie qui a été en plein essor et qui a été valorisée, il y a eu un boom extraordinaire qui s'est fait. Et puis, comme je le dis, hein, les progrès, on en fait encore aujourd'hui, tous les jours. On a la chance, en France notamment, il faut insister là-dessus, d'avoir des unités de recherche, que ça soit dans le privé, dans le public, qui sont exceptionnelles et qui travaillent avec les services cliniques. On a la chance d'avoir des statuts où on peut... Moi, je travaille à l'INSERM, à l'unité 976, avec le docteur Michel, le professeur Boisiz, le professeur Chawat, enfin toute l'équipe. Et on a la chance de pouvoir appliquer nos travaux de recherche plus théoriques, plus scientifiques, dans nos pratiques au quotidien pour le bénéfice des patients.
Ce grand boom, justement, de la chirurgie plastique, Brigitte Drénaud, on peut aussi dire, donc, en effet, qu'on le rencontre aujourd'hui. Mais comment vous expliquez cet élan autour de la médecine, la chirurgie esthétique? Pourquoi de plus en plus de personnes ont recours à cette discipline?
Je dirais qu'il y a aujourd'hui, d'une part, comme ça a été dit, il y a eu des progrès énormes qui ont été faits dans le domaine de la chirurgie esthétique qui vous permet d'avoir une efficacité thérapeutique et le tout sur des prises en charge qui sont de plus courte durée, beaucoup moins douloureuses, donc tout s'est facilité. Au niveau de la médecine esthétique, il y a un élément aussi qui intervient aussi pour la chirurgie esthétique, c'est le critère et cette notion de la place du physique, de la beauté dans la société actuelle. Et ça, c'est un élément qui a fait beaucoup évoluer les choses. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit tout de suite tout à l'heure par le professeur Bocara, qui était de dire les patients qui ont besoin, des patients que j'ai sentis. Oui, en fait, la première étape, elle est essentielle, c'est-à-dire le retentissement psychologique important fait partie pour moi, en fait, d'une nécessité d'une approche thérapeutique. Mais il repose sur quelque part un diagnostic. Et donc, ça, c'est vraiment des éléments aujourd'hui qui font qu'il y a cette évolution, et puis il y a la recherche derrière. Comme on le disait, on progresse énormément au niveau des cellules souches, au niveau des différents types d'approches thérapeutiques sur la peau que l'on peut développer. Donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est en pleine expansion.
C'est important justement de l'apparence physique, c'est pas que pour les plus jeunes, il s'agit du deuxième facteur de discrimination à l'embauche, le premier facteur de discrimination c'est l'âge. Ça, Yann Cornillier, c'est aussi quelque chose qui peut aussi expliquer pourquoi justement les actes les plus utilisés, ce sont justement les actes, les méthodes anti-vieillissement.
Oui, tout à fait, en fait c'est une principale préoccupation en fait de lutter contre notre vieillissement et effectivement c'est aussi un facteur de discrimination que ce soit dans la société ou dans nos métiers aussi. L'image est vraiment centrale, actuellement dans notre rapport aux autres aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux mais dans la vie de tous les jours également. Et c'est vrai que face à une offre d'actes esthétiques qui s'est vraiment diversifiée, chacun peut y retrouver aussi quelque chose qui puisse corriger selon son désir, mais aussi du coup passe à l'acte pour ça. Et en même temps, c'est vrai qu'on est quand même sur des standards de beauté qui sont toujours un peu les mêmes et une sorte d'uniformisation de la beauté pour autant.
David Bocara.
Et je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement le vrai progrès, le vrai boom, pour moi, il s'explique parce que justement on est tous différents. Alors on veut être différents et en même temps on veut tous se ressembler un peu, mais si vous voulez, les différentes techniques et l'accès est tellement varié que chacun peut retrouver un petit peu ce qu'il veut à son niveau, avec ses peurs, ses inquiétudes, ses angoisses et ses désirs. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui.
Alors du côté de la chirurgie réparatrice, quelles sont les techniques innovantes? Restez avec nous.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triot.
En direct sur France Culture, comment réparer la peau et le sein grâce à la chirurgie et la médecine esthétique? C'est la question que nous posons à David Bocara et Brigitte Drénaud, et en partenariat avec l'Inserm, co-animé avec Yann Cornillier. Alors, nous parlons de chirurgie esthétique, de médecine esthétique. Nous allons parler à présent de reconstruction mammaire. Avant de parler des progrès, on peut peut-être quand même revenir sur les scandales qui ont entouré les prothèses mammaires. David Bocara, notamment en 2010, le scandale des prothèses PIP qui a été dévoilé.
Alors le scandale, oui, malheureusement, on est personne n'est jamais à l'abri d'avoir un matériau qui soit défectueux ou frauduleux, hein, que ça soit en médecine, je sais pas, en automobile, en informatique. Et malheureusement, voilà, le scandale des PIP, ben il y a eu un lot ou plusieurs lots en tout cas au sein d'une société PIP qui vendait des prothèses avec du gel de silicone qui n'était pas, on va dire, bioacceptable pour le corps. Avec le recul, je pense qu'on a peut-être un peu inquiété les patientes de manière, on va dire, exagérée. On sait qu'en Europe, notamment, où ces prothèses étaient beaucoup posées, tous les pays n'ont pas eu la même attitude. Bon, nous, on a toujours, et on a raison en général, d'avoir un principe de précaution qui soit extrême. Donc, on a explanté, c'est-à-dire qu'on a retiré et changé toutes les prothèses de ces patientes qui ont eu ces soucis. Au final, la vraie question qu'on peut se poser parfois avec le recul, c'est est-ce qu'il y aurait eu plus de conséquences en les enlevant ou non? C'est toujours difficile à dire. Mais en tout cas, oui, il y a eu ce scandale-là qui venait après un moratoire de plusieurs années où justement les prothèses en silicone ont été interdites au profit des prothèses en sérum physiologique, donc avec de l'eau à l'intérieur, qui est un matériau bien entendu beaucoup plus neutre pour le corps humain. Et on sait aujourd'hui que le silicone en lui-même ne pose pas de problème pour le corps humain. Mais malheureusement, il y avait un lot où c'était pas du silicone, on va dire, médical et acceptable pour le corps qui avait été posé. Donc ça fait beaucoup de tort, ça a beaucoup inquiété les patientes. Hein. J'ai un souvenir de vacances annulées parce que les gens venaient en pleurant, en arrivant dans le service, en disant « je vous en supplie, enlevez-moi mes implants, je vais mourir ». C'était une période vraiment triste. Et puis, heureusement, on a des autorités de santé qui font bien les choses. Et aujourd'hui, tout est bien encadré avec des produits, honnêtement, qui sont de grande qualité, même si on sait, sans que ça soit un scandale, que quand on se fait poser un implant mammaire, Il y a une durée de vie moyenne qui est de 10 à 12 ans. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais néanmoins, une prothèse mammaire, ça se surveille et ça s'entretient et ça finit par se changer aussi.
Il y a des résultats d'une étude du CNRS qui vient de paraître dans la revue Biomatériel, qui remet en cause la sécurité de ces implants, qui plaide pour une réévaluation des risques associés. Selon cette étude, les implants mammaires en silicone, même sans rupture visible, ils libèrent des particules qui déclenchent une réponse immunitaire et qui activent des marqueurs associés aux maladies auto-immunes.
Alors, il y a eu quelques cas. En effet, il y a eu un autre problème, alors qui n'était pas dû directement au gel de silicone, mais c'était avec ce qu'on appelait des implants macro-texturés. Il faut savoir qu'il y a deux types de prothèses mammaires, des prothèses dont le revêtement, dont l'enveloppe est parfaitement lisse. Et puis, au début des années 2000, il y a eu des implants qui ont été mis au point avec une enveloppe texturée, donc rugueuse. L'idée était de pouvoir ainsi poser des implants qui soient anatomiques, c'est-à-dire qui épousent une forme qui soit plus ressemblante à celle du sein, en forme de goutte, et d'empêcher ces implants de tourner, et aussi de diminuer le risque de rejet du corps qui peut s'exprimer sous forme de coque. C'est une enveloppe rigide qui peut se faire autour de l'implant mammaire. C'est une forme de réaction auto-immune, mais qu'on peut avoir avec une prothèse de hanche, un pacemaker ou autre. Malheureusement, ces implants macro-texturés ont engendré certains dégâts. On a eu des patientes, en effet, qui ont eu des problèmes auto-immuns derrière. Il y a même eu quelques cas de lymphome. Après, c'est toujours pareil. C'est toujours une histoire de bénéfices et de risques. Oui, il y a toujours un risque et pas de zéro. Il y a quand même eu il y a eu très, très peu de cas, même s'ils sont, malheureux et on le regrette tous. Ces implants-là, ils ont quasiment été explantés, c'est-à-dire retirés chez toutes les patientes qui étaient porteuses. C'était plutôt des patientes, d'ailleurs, qui portaient ça en reconstruction mammaire. Voilà, alors après, oui, il faut faire très attention, il faut une sécurité qui soit maximale. Moi, j'ai eu la chance de jamais poser ce type d'implant. Je vous avoue que dans le service dans lequel je travaille, on n'y a jamais beaucoup cru. Mais en effet, il y a toujours une inquiétude possible. Après, il y a quand même une surveillance qui est extrêmement importante. Chaque fois qu'il y a un implant rompu, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans, on déclare à la matériovigilance, il y a des études qui sont faites, il y a des prélèvements qui sont réalisés. Donc, les patients sont quand même pris en charge dans des bonnes conditions.
Yann Cornillier.
Oui, il faut ces dispositifs médicaux, de toute façon, ils suivent une réglementation, que ce soit européenne ou française. Donc, dans la très grande majorité des cas, ces dispositifs médicaux ne posent pas de problème. Et c'est comme tous les autres dispositifs médicaux, que ce soit des lunettes ou des appareils auditifs, il peut toujours y avoir un défaut de quelque part dans la fabrication. Et malheureusement, évidemment, mais il faut réagir au plus vite pour pouvoir le corriger.
En effet, ces précédents scandales ont donné naissance au nouveau règlement européen justement sur les dispositifs médicaux. Comme vous dites, il faut faire attention justement sur la prise de recul par rapport à ces technologies-là et à ces techniques-là. Par rapport aux reconstructions mammaires, aujourd'hui, quelles sont justement les techniques qui sont proposées pour les patients de David Brocara?
Alors j'ai envie de dire qu'il y a énormément de techniques. Il y a quasiment autant de techniques que de patientes. C'est-à-dire que quand moi je reçois une patiente en consultation, déjà je l'écoute, j'essaye de comprendre ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Il y a des techniques qui peuvent paraître formidables ou extraordinaires pour certaines patientes et finalement, du fait de leurs contraintes, de leurs risques, elles vont moins plaire à d'autres. Alors il y a eu chaque époque, j'ai envie de dire, a vu certaines techniques prendre le dessus sur d'autres. Les prothèses mammaires, bien sûr, pour la reconstruction des années 80 jusqu'aux années 2000. Puis, il y a eu un essor extraordinaire de ce qu'on appelle les lambeaux. Les lambeaux, c'est prélever des tissus à distance ou à côté de la zone à reconstruire qu'on va garder vivant grâce à une artère et une veine qu'on peut soit garder en continuité, soit qu'on va rebrancher au microscope à distance. C'est ce qu'on appelle les lambeaux de Condorcet, les lambeaux de Dieppe. Et puis, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant, il y a une technique extraordinaire qui a vu le jour, qui est finalement très ancienne. C'est l'association d'une lipoaspiration, donc d'un prélèvement de graisse, et une réinjection du tissu graisseux pour reconstruire un sein. Cette technique, elle a un avantage formidable, c'est que c'est une technique autologue, c'est-à-dire qu'elle est issue, c'est les propres tissus des patients. On va pouvoir avoir, une fois que la reconstruction est terminée, les patientes sont tranquilles pour tout le reste de leur vie. Il n'y a pas les risques de rejet, d'échec comme avec certains lambeaux, d'infection avec les implants. Néanmoins, ce sont des interventions qui doivent être répétées parce qu'on ne peut pas mettre de manière illimitée de la graisse dans le sein pour reconstruire la forme qu'on veut. Donc il faut que les patientes tout de même acceptent d'être opérées plusieurs fois pour bénéficier de ce type de reconstruction, en général 3 à 5. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvaise technique. Tout le monde ne peut pas bénéficier de toutes les techniques puisqu'on a une anatomie qui est différente. Et après, moi, j'ai pour habitude de toujours proposer les avantages et les inconvénients de chaque technique potentielle pour une patiente. Et puis, on essaye de choisir ensemble. Voilà. Et cette technique a été mise au point dans les années 80-90, encore par un Français qui s'appelle Fourier. Elle a été très longtemps mise en attente, entre guillemets, pour le sein, parce qu'on ne disposait pas d'éléments de dépistage d'IRM qui étaient suffisamment performantes pour faire la différence entre une réinjection de graisse et un possible cancer. Aujourd'hui, on sait qu'on a plus ce problème-là, et pour dire, on est passé de 0 à 50% des reconstructions mammaires qui se font comme ça en moins de 10 ans. Donc c'est une vraie révolution.
Yann Cornillier ?
Ouais, je pense que c'est important, effectivement, comme le disait, et qu'il y ait un dialogue en fait entre le chirurgien et la patiente pour qu'il y ait une acceptabilité de la patiente. C'est ce qui peut être déterminant en fait aussi pour qu'elle choisisse de pas le faire ou qu'elle choisisse de le faire d'ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'elle participe aussi au choix de la réparation.
Oui, que ce soit en effet dans un contrat thérapeutique entre, enfin un dialogue qui puisse se faire aussi.
Exactement.
Entre le médecin et la patiente, parce que, enfin, je lisais aussi dans ce dossier INSERM sur le fait qu'il puisse y avoir que certaines patientes aient pu ressentir de la pression du fait de pas accepter par exemple la reconstruction mammaire, par exemple Yann Cornillier,
oui, David Bocara. Oui, effectivement, on considère qu'il y a à peu près 30% des personnes qui ont refusé d'avoir une reconstruction, qui se déclarent avoir subi des pressions de leur entourage, etc. Et effectivement, je pense qu'il y a effectivement une certaine pression du modèle de poitrine qu'on doit avoir, et je pense que ça vient de là. Mais de toute façon, toutes les femmes ne peuvent pas être reconstruites non plus, donc il y a aussi des contre-indications. Donc c'est là où il faut vraiment...
Oui, voilà, c'est extrêmement important. Il y a un temps pour tout. Il y a des patientes qui sont pressées, qui ont envie de retrouver, qui ont envie d'oublier quelque part et de passer à autre chose. Et il y a des patientes, bon, ben, pour qui revenir se faire opérer, revenir à l'hôpital ou à la clinique, ça fait revivre en elles le souvenir de la maladie, etc. Donc, je pense qu'il faut que toutes les patientes puissent en bénéficier, que toutes les patientes aient l'information. Et là-dessus, il y a un vrai progrès à faire. Mais il faut aussi accepter que ben, chacun est libre de son corps et de faire ce qu'il veut. Et puis il y en a qui viennent un an après, mais il y en a parfois qui viennent 10 ans après parce qu'il leur a fallu 10 ans pour prendre conscience que c'était important pour elles.
Pour continuer sur ces méthodes justement qui sont en cours et qui connaissent un essor, on vient de présenter la greffe de tissus adipeux, il y a un nouveau concept qui représenterait une grande avancée, qui est en cours d'élaboration dans les sociétés françaises, c'est celui de prothèses biodégradables. Quel est ce concept, David Bocara ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est mise au point et qui est travaillée depuis un moment à Lille par le professeur Gareski, où en fait l'idée serait d'utiliser la peau de la graisse abdominale, mais sans faire une liposuction, en laissant cette peau vascularisée, c'est-à-dire vivante par les vaisseaux de l'abdomen. Et en fait, on glisse une prothèse qui serait biodégradable, mais avec des facteurs de croissance dedans qui vont faire grossir spontanément la graisse. C'est-à-dire ce dont on ne veut pas toute la journée, ben là, ça arriverait spontanément dans la prothèse, et puis au bout d'un moment, cette prothèse va se biodégrader, et finalement ça permettrait d'éviter de devoir refaire plusieurs interventions. La principale limite de la greffe adipeuse, bah, c'est qu'il faut plusieurs fois opérer les patients de 3 à 6. Aujourd'hui, il y a des techniques de fat banking, c'est-à-dire où on est capable de stocker la graisse, de la cryopréserver. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus, ça éviterait aux patientes de se faire réopérer. On pourrait imaginer juste faire la réinjection en consultation, même si on a beaucoup qui sont très contentes d'avoir une lipoaspiration tous les 3 mois, j'ai jamais de plainte là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres techniques, le stockage de la graisse, des bioprothèses, des modèles avec l'impression 3D. Et donc il y a énormément de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits en France. Hein. Je sais que je suis toujours supporter numéro 1, mais on a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses, même si la réglementation est parfois difficile. C'est pour ça que je dis, finalement, ce qu'on a écouté au début de l'émission, c'est d'actualité. Il y a des progrès tous les jours et on espère qu'il y aura des révolutions tous les ans.
Yann Cornillier ?
Oui, en fait, vulgairement, en fait, le principe, c'est d'avoir une sorte de moule en biomatériaux biocompatibles qu'on va introduire au niveau du sein et qui, à l'intérieur, a des tissus graisseux, des cellules qui vont, en fait, tout simplement combler la prothèse. Et au fur et à mesure, la prothèse va disparaître. Et à la place, on aura un tissu qui sera parfaitement naturel.
C'est une prothèse constituée de biopolymères qui va se désagréger progressivement. Alors qu'en est-il maintenant de la reconstruction cutanée? Pourquoi est-il si difficile de reconstruire de la peau? Restez avec nous.
Merci pour ces belles roses, merci cher Benjamin. Mais elles sont drôles et roses, elles n'ont pas de parfum. Ce sont des roses artificielles, presque aussi belles que naturelles. Pas comme les roses qui nous piquent, ce sont des roses de plastique. Tes roses sont écloses pour toujours, Benjamin. Sans que je les arrose, elles n'en ont pas besoin. Ce sont des roses artificielles, presque aussi belles que naturelles. Pas comme les roses qui nous piquent, ce sont des roses de plastique.
Attention, nous sommes en direct sur France Culture et nous venons d'écouter Petula Clark, Plastic Rose, puisque nous parlons de chirurgie plastique. Nous sommes en compagnie de David Bocara, professeur des universités, praticien hospitalier, chirurgien plasticien à l'hôpital Saint-Louis, chercheur associé à l'unité INSERM 976, coordonnateur pour le DES de chirurgie plastique esthétique et reconstructrice, et Brigitte Drénaud, professeure de dermatologie, directrice de recherche INSERM, co-directrice d'un contrat de recherche dans le domaine de la régénération cutanée des brûlés. Cette émission est en partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier, rédacteur en chef du magazine de l'INSERM. Nous venons de parler de régénération et de réparation mammaire. Parlons à présent de reconstruction cutanée. Dans quelle situation, Brigitte Drénaud, la régénération cutanée est-elle nécessaire pour les patients?
Alors, la régénération cutanée va se discuter pour le patient à partir du moment où on a des pertes de peau qui sont importantes et qui vont poser un problème, en fait, de recouvrement, notamment pour le chirurgien. Et donc, à partir de là, eh bien, on va essayer de développer des modèles de peau pour pouvoir, justement, apporter au chirurgien une solution. Alors, la grosse difficulté, en fait, c'est que vous prenez la peau, c'est quasiment l'organe qu'on considère le plus immunogène, c'est-à-dire qu'il a à la surface, en fait, des molécules qui fait qu'il est rejeté lorsqu'il n'est pas avec son propre individu, ce qu'on appelle le système autologue. Donc, on se retrouve avec la difficulté d'être obligé de prendre sur la peau du patient pour combler le déficit, d'un côté, et le deuxième élément, c'est dit très bien, puisque c'est ça, on va mettre en fait les peaux en culture, ce que l'on sait faire, pour essayer d'obtenir de la peau. Mais c'est pas si facile que ça, et aujourd'hui, on a une peau, oui, que l'on peut obtenir pour le patient, mais qui souvent, n'est pas, il y a deux parties dans la peau, l'épiderme et le derme, on a du mal à les mettre ensemble et à les, vraiment les reconstituer. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui à faire des gros progrès, notamment au niveau du derme, où on a en fait l'équivalent de matrice. On n'est pas très loin de ce qu'on discutait sur la chirurgie, qu'on peut obtenir par des imprimantes 3D, par du bioprinting. Et dans les nouvelles approches, on glisse les cellules cutanées et ça va nous faire une sorte de matrice qu'on va poser sur la plaie, qui va permettre aux chirurgiens de couvrir à ce moment-là des déficits, notamment dans le cadre des brûlures beaucoup plus importantes, et de pouvoir obtenir une cicatrisation qui va être bien meilleure. Ça, c'était la première solution. Puis après, on a repéré, grâce aux travaux de recherche, qu'on avait dans la peau des cellules souches. Et ces cellules souches, on commence à avoir des marqueurs pour les isoler. Et elles ont un avantage, notamment les cellules fœtales. Elles ne sont pas rejetées. En fait, c'est logique, puisqu'un fœtus n'est pas rejeté. Donc, à partir de ces cellules fœtales, on s'est dit, on va pouvoir développer, à ce moment-là, des systèmes de peau qui vont être acceptés, pas par un seul individu, mais par plusieurs. Et donc, la recherche continue dans ce domaine. Et puis, on a encore avancé d'un cran, où on s'est dit, mais finalement, ces cellules souches, elles sécrètent des substances qu'on a appelées, bêtement, un secrétome, aussi simple que ça. Et si c'était ce secrétome qui expliquait qu'elles sont actives et qu'elle facilite la cicatrisation. Et en fait, c'est le cas. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on essaye d'avoir des approches dans lesquelles on utilise le secrétome de ces cellules que l'on met dans une matrice, comme je vous parlais, pour le protéger, pour ne pas qu'il soit détruit, et on l'applique sur les patients. Et donc, c'est toute cette approche qui est la régénération. En fait, en définition, la régénération, vous devez refaire un tissu, donc vous pouvez permettre, grâce aux cellules souches, que les cellules se multiplient. Pour refaire le tissu, la deuxième chose, il faut qu'il soit fonctionnel. C'est les deux qualités qui sont indispensables pour parler de régénération. Et dans ce domaine, eh bien, on avance beaucoup. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on est en multidisciplinarité. Je peux pas imaginer travailler, moi, en dermatologie seule. Je travaille avec les chirurgiens plasticiens énormément. Travaille aussi avec les industriels. C'est absolument indispensable, notamment dans les domaines des matrices.
Et vous travaillez notamment, Brigitte Drénaud, hein, avec justement plusieurs disciplines pour le projet Success. Ce que vous venez de nous décrire, hein, finalement, c'est l'idée, c'est celui d'un pansement régénératif. C'est un projet qui a débuté il y a à peu près 7-8 ans.
Alors, c'est un projet exactement qui a débuté il y a 7-8 ans. Il a débuté donc au sein de l'unité de thérapie cellulaire du CHU de Nantes. Et on est parti de l'idée de ce que je vous disais, une sorte de matrice, comme une compresse dans laquelle on a mis des cellules fœtales. Et l'idée qu'on a eue, c'est de mettre à la fois des kératinocytes et des fibroblastes ensemble, c'est-à-dire les cellules de l'épiderme et les cellules du derme. Et ça a marché, ça on donnait aux chirurgiens, et lorsque, par exemple, il y avait ce qu'on appelle une prise de greffe, le chirurgien était obligé de prendre la peau du patient, c'est souvent douloureux, ça fait une plaie, eh bien on mettait notre pansement et on a montré qu'on était beaucoup plus actifs pour permettre cette cicatrisation. Sauf que là, on s'est dit, oui, mais en fait, on peut travailler, alors comme c'est des cellules fœtales, on peut le mettre à plusieurs personnes, mais on peut travailler qu'à l'hôpital de Nantes. Et c'est de là qu'est venue l'idée de ce que je vous ai expliqué, de travailler avec un secrétome. Et donc aujourd'hui, avec un industriel, donc Naos, celui-ci nous a mis au point une matrice. Et en mettant cette matrice, nous permet de mettre à l'intérieur notre secrétome. Et à partir donc de là, de pouvoir envisager d'avoir ce pansement, voyez-le comme une sorte de gel qui va être déposé sur la peau du patient. Et aujourd'hui, on l'a fait chez les mini-pigs qui ont une peau très voisine de la peau humaine, le cochon. Et on a montré qu'on était capable d'accélérer, en fait, la cicatrisation par rapport à un pansement normal. Prochaine étape, bien sûr, on veut arriver chez le patient directement.
Chez le passé, de tester tout ça chez l'humain. On continue de parler des progrès de la médecine régénérative et des innovations en reconstruction cutanée dans le reportage du jour. Et c'est avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendu au CHU de Besançon où ils élaborent un derme biodégradable nommé Tissue qui doit permettre une cicatrisation optimale avant de disparaître.
Oui, tout à fait. C'est assez proche de ce que vous venez de décrire, Madame Drénaud. Le projet est parti d'un constat clinique très simple. Il y a des situations où l'organisme n'arrive pas à cicatriser correctement. Ça peut être le cas pour les grands brûlés, pour les patients atteints de plaies chroniques ou encore dans le cas d'accidents et de chirurgie où la perte de peau est trop importante. Alors le biomatériau qui est développé à Besançon vient suppléer à cette cicatrisation. Il lui donne en quelque sorte un petit coup de pouce pour la faire partir. Puis il devient un support sur lequel les cellules de peau peuvent proliférer. Et enfin, à mesure que la cicatrisation avance, il disparaît, lentement dégradé par notre organisme. Gwenaëlle Rollin est maître de conférence à l'université Marie et Louis Pasteur et chargée de recherche au CHU de Besançon. Il m'a accueilli dans une salle de culture cellulaire où il suit quotidiennement des expériences dans lesquelles il teste l'efficacité du biomatériau. Là, sous les yeux, on a de la peau humaine, c'est bien ça ?
Exactement. C'est un échantillon de peau humaine qui a été obtenu au CHU de Besançon en tant que déchet opératoire avec le consentement et les autorisations nécessaires. Et à partir de cette peau, on va extraire des cellules cutanées, humaines, qui vont nous permettre d'évaluer notre biomatériau au laboratoire. On extrait spécifiquement des cellules issues de l'épiderme, des kératinocytes, et des cellules issues du derme, les fibroblastes, que l'on va ensuite ensemencer, comme un jardinier, sur notre biomatériau, de façon à voir leur évolution dans le temps et de vérifier que ces cellules sont capables d'envahir notre biomatériau dans toute son épaisseur. C'est dans cette pièce que l'on extrait nos cellules à partir de la peau.
Et est-ce que vous pourriez nous montrer exactement où est-ce que ça se passe ?
Oui, bien sûr. Les cellules que l'on cultive au quotidien, elles se trouvent dans un incubateur de culture cellulaire. C'est une enceinte contrôlée du point de vue de sa température, de l'humidité et de sa teneur en oxygène et en CO2. Et comme on peut le voir dans cet incubateur, sur différentes étagères, on retrouve des supports de culture. Il y a des boîtes de pétri en plastique, des flacons et des plaques dans lesquelles nos cellules sont cultivées et dans lesquelles, en ce moment, on est en train de cultiver notre biomatériau de régénération cutanée.
Dans les petites colonnes qu'on a sous les yeux, il y a un liquide et une couleur rosée qui apparaît, mais dans ce liquide, il y a à la fois le biomatériau et de la peau qui colonise ce biomatériau.
Alors dans chacun des puits, on a un dispositif qui nous permet de maintenir le disque de biomatériau dans une position stable au cours du temps.
C'est la partie rosée, ça ou...
C'est la partie plutôt blanchâtre. La partie rosée que vous évoquez, c'est le milieu de culture. Puisque les cellules, pour être maintenues en survie et croître, ont besoin, comme nous, de nutriments. Et c'est le rôle de ce milieu de culture que de les apporter.
Et après, pour savoir si la peau colonise bien ce biomatériau, j'imagine qu'il faut l'analyser au microscope, par exemple.
Oui, ce que l'on va faire, c'est qu'à différents temps, tout à l'heure on parlait de 3-4 semaines de temps de culture, à différents temps, toutes les semaines, on va prélever un échantillon de ce biomatériau et ensuite aller analyser au microscope sa teneur en cellules à l'aide de techniques de marquage fluorescent.
C'est quelque chose qu'on peut aller voir dans la pièce qui est à côté, c'est ça ?
On peut aller voir effectivement les marquages et les résultats déjà obtenus dans notre salle de microscopie.
J'allume ?
Alors oui, on peut allumer. Généralement, s'agissant de marqueurs fluorescents qu'on utilise pour repérer nos cellules, ce sont des marqueurs qui peuvent être photosensibles. Donc on essaye de travailler dans le noir ou la pénombre. On voit des points bleus qui sont répartis de façon homogène.
C'est des points bleus sur un fond noir. On a un peu comme un ciel étoilé avec des étoiles bleues.
C'est exactement ça. Ça peut être un petit peu psychédélique à regarder, mais c'est exactement ça. Et ces points bleus, encore une fois, sont en fait les noyaux des cellules. Ce qui nous permet en fait spécifiquement, et en faisant abstraction du biomatériau lui-même, de pouvoir compter le nombre de cellules à l'instant T. Ici, la photo a été prise 3 jours après l'ensemencement des cellules. Là, au bout de 3 jours, les cellules n'ont pas eu le temps beaucoup de proliférer. Elles ont eu le temps d'y adhérer, c'est-à-dire s'accrocher après les fibres du biomatériau. Et c'est après le 3e jour qu'on va commencer à voir des phénomènes de prolifération, d'augmentation de nombre de cellules et d'augmentation de nombre d'étoiles bleues. Cette deuxième photo, cette deuxième image fluorescente, elle nous montre l'état du nombre de cellules 14 jours après l'ensemencement. Là, on est 11 jours après la première photo que l'on vient de voir. Et l'on peut voir que le nombre de noyaux, le nombre d'étoiles bleues a augmenté.
Globalement, c'est beaucoup plus dense sur l'image.
C'est exactement ça. C'est beaucoup plus dense en termes de nombre de cellules en surface, mais aussi en épaisseur dans le biomatériau. Conclusion, les cellules dans ce biomatériau se sont plutôt plu parce qu'elles ont migré et proliféré dans les 2 semaines pendant lesquelles elles ont été cultivées. Là, on est en train d'observer un zoom sur une cellule que l'on a marquée en bleu pour visualiser son noyau et en rouge pour observer son cytosquelette. Et on a comme l'impression que cette cellule, dans l'espace, émet des prolongements cytoplasmiques, des sortes de bras, des systèmes d'accroche.
Elle fait un peu comme une toile d'araignée.
Exactement. Elle est allongée, elle est plutôt de forme étoilée, elle pourrait ressembler effectivement à une toile d'araignée. Et l'on peut voir, par exemple ici, au niveau de ce prolongement, qu'en fait ce prolongement est en continuité d'une fibre de biomatériaux, que l'on devine ici plus sombre que le reste de l'image. Ce que l'on cherche à montrer avec ces expérimentations in vitro, c'est la capacité du biomatériau à être colonisé par des cellules. Puisqu'en fait, lorsqu'il sera greffé sur un patient ou une patiente, c'est que les cellules qui sont présentes au niveau de la peau du patient, en périphérie de la plaie, puissent migrer, envahir le biomatériau, le recoloniser et le faire disparaître au fur et à mesure du temps.
On n'a pas encore décrit ce biomatériau, donc il est juste ici dans un petit... Enfin, on le sort d'un petit sachet plastique et ça ressemble à un petit bout de papier blanc en fait.
L'échantillon qui est devant nous ressemble effectivement à sorte de papier buvard. Son épaisseur est à peu près d'un millimètre. L'épaisseur moyenne du derme de la peau est de 1 à 2 mm, donc en ce sens-là, on reproduit son architecture.
Là, ce biomatériau qu'on a devant nous, il existe déjà. On a pu voir sur les images au microscope qu'il avait l'air, pour le coup, de plutôt bien fonctionner. Qu'est-ce qui manque encore pour qu'on puisse le voir dans nos hôpitaux ?
Il nous reste encore à obtenir un certain nombre de preuves de sécurité et d'efficacité d'emploi du biomatériau sur un modèle animal, qui est une phase réglementaire obligatoire. Et ensuite, si les feux sont au vert, de pouvoir réaliser un premier essai clinique chez l'homme, de façon à pouvoir éprouver notre biomatériau dans une situation réelle.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Yann Cornillier, une réaction à ce qu'on vient d'écouter?
Ah oui, le remontage, en fait, il parle de ces travaux-là, dont on a déjà fait écho d'ailleurs dans le magazine, de Gwenaël Rollin. Il montre aussi toute la complexité de la peau, parce qu'eux, ils s'attachent à régénérer le derme. Donc, pour vous rappeler, en fait, la peau, c'est comme un tiramisu. Il y a différentes couches. Il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc l'épiderme, c'est vraiment la couche superficielle, un peu plus profonde le derme et encore plus profond l'hypoderme, là où on retrouve notamment les cellules graisseuses. Ce qui est important, c'est de pouvoir pas seulement reconstituer l'épiderme selon la gravité des brûlures ou de traumatismes, mais aussi le derme, parce qu'en termes de fonctionnalité de la peau, d'élasticité, c'est très important. Ceci étant dit, effectivement, c'est encore plus compliqué de réussir à régénérer le derme que l'épiderme, et donc les travaux sont d'autant plus importants. Mais il y a quand même quelque chose dont on ne peut pas s'affranchir, c'est le temps de culture. Et il est vrai que quand on prélève des cellules ou même un morceau de peau chez un patient, il va falloir 3 à 4 semaines de toute façon de mise en culture pour pouvoir remettre la peau sur le patient. Et donc pendant ce temps-là, il y a des risques énormes d'infection, encore plus selon l'étendue des brûlures ou du traumatisme. Et donc c'est là tout est l'enjeu. Et c'est vrai que les travaux de Brigitte Drainaud, justement, sur un pansement cutané, ils sont encore plus intéressants parce qu'ils permettent d'intervenir presque immédiatement.
Oui, de pouvoir s'émanciper de ce temps de culture.
Exactement.
Mais alors, ça, on peut rappeler aussi également ensemble, David Bocarin, à quel point, justement, le temps de culture des cellules, c'est un enjeu capital lors de ces grèves de peau.
Je dirais que c'est l'enjeu numéro un. Faut savoir, pour comprendre pourquoi il y a tous ces enjeux de recherche, il y a deux organes qu'on connaît très mal. Finalement, c'est le cerveau et la peau. La peau, c'est presque 2 mètres carrés. C'est 5 à 10 kilos selon les individus. Donc, c'est le plus gros organe et pourtant celui qu'on connaît le mieux. Il y a une multitude de cellules, une multitude de couches. Et en fait, quand on reçoit un grand brûlé, on a vraiment un contre-rebours, un contre-la-montre à jouer. Parce qu'on sait qu'à chaque heure, il y a des risques d'infection. La plupart du temps, malheureusement, les patients qui décèdent, ils décèdent d'infection. Et finalement, même si on a 20% de peau prélevable, qu'on peut l'expanser, c'est-à-dire l'étendre, faire un filet avec, il y a des risques d'infection qui sont très importants. Donc, on peut gagner un peu du temps. On utilise parfois de la peau de cadavre, de la peau de cochon, parfois même de la peau de poisson. Mais toutes ces peaux-là vont être rejetées. Quand bien même on utiliserait la peau de quelqu'un d'autre, la peau serait rejetée aussi. On sait transplanter un cœur, un rein, mais on ne sait pas transplanter de la peau aujourd'hui. Donc, c'est là où est l'enjeu majeur. Et c'est pour ça que ces travaux sont essentiels pour nous. Voilà.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture et en partenariat avec l'INSERM, nous parlons de chirurgie et de médecine plastique et esthétique. Nous venons de parler des progrès en cours dans cette discipline. Impossible de ne pas parler des risques et des dérives. On a évoqué le boom de la chirurgie esthétique, c'est les raisons qui expliquent cet engouement. On a vu que c'était des techniques qui étaient mieux maîtrisées, ce qui a permis aussi de réduire les risques. Néanmoins, les risques existent. Brigitte Drainaud, quels sont justement... les dérives en chirurgie et en médecine esthétique qu'on observe actuellement?
Moi, je parlerais plus au niveau de la médecine esthétique. Alors, les dérives sur notamment les deux gestes, les deux techniques ont été citées, qui sont le fillers et la toxine botulique. C'est un, être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à le faire. C'est-à-dire que si on fait un filler, s'il n'y a pas un antécédent, on a parlé tout à l'heure de maladies auto-immunes. Donc
les fillers, c'est toutes les méthodes, toutes les techniques d'injection, de Botox,
exactement.
Par exemple.
Voilà. D'injection, c'est ces techniques qui veulent augmenter le volume, donc au niveau de la peau, et qui sont surtout faites à base d'acide hyaluronique. Alors que au niveau de l'acide du Botox, vous allez être plus pour avoir un relâchement musculaire et jouer sur les rides, si je vous fais schématiquement. Et donc après, eh bien, il peut y avoir ce que nous on appelle des effets secondaires. Donc on prévient le patient, mais ils peuvent quand même exister. Par exemple, quand vous avez des fillers, il peut y avoir une réaction qui peut se produire et qui fait que vous allez avoir des sortes de boules, ce que nous on appelle des granulomes, qui peuvent se développer. Il y a aussi également des risques au niveau de l'acide hyaluronique. Donc, ce sont des techniques pour lesquelles il est très important d'essayer de prévenir ces effets secondaires par un très bon interrogatoire du patient, lui expliquer aujourd'hui aussi ces risques potentiels. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait par des médecins qui ont vraiment l'habitude, médecins chirurgiens, qui ont vraiment l'habitude de ce type de technique. C'est ce que vraiment la partie effet secondaire est vraiment quelque chose d'important.
Puis en effet, le Botox, ça peut avoir de graves conséquences, Yann Cornillet, surtout si le produit se retrouve dans les vaisseaux sanguins.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, un des autres aussi points de vigilance, c'est le produit en lui-même qui est injecté. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs affaires, effectivement, qu'on a pu voir dans les médias, de personnes qui se sont retrouvées à faire des injections par des non-professionnels, que ce soit en France ou à l'étranger, et effectivement qui utilisent des produits certes moins chers, mais de moins bonne qualité. Et effectivement, plus le produit, on va dire, est impur, plus le corps va réagir. Et ça peut aussi créer des situations dramatiques.
Des injections faites par des non-professionnels, ce qu'on appelle dans le milieu, David Bocara, des fake injectors. Ça, c'est aussi un des problèmes de...
Non, oui, malheureusement, c'est quelque chose, nous, qu'on reçoit quasi quotidiennement à l'hôpital. Il y a deux questions à se poser, hein. Qui et quoi ? Qu'est-ce qu'on se fait injecter et par qui ? Vous savez que c'est... Enfin, vous savez peut-être que ce n'est pas en vente libre, ces produits. Donc, malheureusement, en plus, les gens qui n'ont pas le diplôme ou les compétences pour réaliser ces injections peuvent pas s'approvisionner en produits de qualité. Donc, de toute façon, ils vont acheter des produits sur un marché parallèle. Et puis, voilà, moi, je suis toujours interloqué par la démarche de certaines personnes qui vont aller rencontrer quelqu'un qu'ils ont vu faire une injection sur Instagram, sur Internet, etc. Et malheureusement, ça a parfois des graves conséquences. Il y a des patients qui ont amputé des nez, des oreilles, des paupières. Il ne faut pas sous-estimer. Comme c'est de la médecine esthétique, on a l'impression que ce n'est pas de la chirurgie, c'est moins grave, c'est moins lourd. Et paradoxalement, il y a beaucoup plus de complications en médecine esthétique parce que parfois, de mauvais produits sont injectés par de mauvaises personnes.
Le risque de défiguration est majeur. Et en effet, d'après l'Ordre des médecins, le nombre de signalements a atteint un record, 128 en 2023. Ça a été 62 en 2022, donc on voit un signalement tous les 3 jours. Autre problème, et ça c'est très rapide pour conclure ensemble, David Bocara, c'est aussi le boom quand même de la médecine esthétique du côté des médecins.
Oui, alors après, il est important de... Moi, je dis toujours à mes internes, à mes chefs de clinique, je leur dis toujours, on ne fait que ce qu'on sait gérer comme complication. Et finalement, tout le monde, ça paraît simple et anodin comme geste, mais il peut y avoir des complications, comme l'a dit professeur Breno avant. Et il faut savoir les gérer, il faut savoir être capable de gérer un granulome ou n'importe quoi d'autre. Donc, il y a des diplômes pour ça, il y a des compétences, les dermatologues, les chirurgiens plasticiens... Certains médecins qui ont de l'esthétique, qui ont de l'expérience, mais n'importe qui ne peut pas faire cela.
Voilà, dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Mais pour prolonger l'écoute, je rappelle que le dernier numéro du Mac de l'Inserm, chirurgie plastique, guérir en beauté, est disponible en ligne. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, Alexandre Morales nous parle des peurs innées et des mécanismes neuronaux pour les réprimer. C'est la chronique avec science.
Comment maîtriser ses peurs innées ? La peur instinctive ou innée, c'est une terreur qui saisit les êtres vivants et leur permet de réagir à un danger imminent. C'est un mécanisme de défense sélectionné par les animaux au cours de l'évolution pour garantir la survie de l'individu et plus largement de l'espèce, en particulier sous la pression de la prédation. Un exemple parlant et un peu sinistre, je m'en excuse, de ce qu'il reste de ces réflexes de survie chez l'humain, c'est la réaction d'une foule au son d'une arme à feu. Lorsque le tir retentit, tout le monde rentre la tête, s'immobilise et cherche à analyser la situation inattendue, violente et potentiellement dangereuse. Dans la nature, ces réactions sont évidemment très utiles, mais elles le sont moins lorsqu'on est un humain qui vit en ville, alors il faut pouvoir réprimer ses peurs innées. Pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à comprendre chez les souris les mécanismes neurologiques qui permettent cette inhibition. Ils en parlent dans la revue Science. Yann Humeau est neurophysiologiste et directeur de recherche CNRS à l'Université de Bordeaux. Il est spécialiste des mécanismes physiologiques de la peur.
Je dirais que la peur primaire, la peur innée, elle est très peu étudiée justement par l'impossibilité ou la difficulté qu'on a de reproduire des situations un peu réalistes qui vont justement les mettre en œuvre. Alors que dans les labos, on a des moyens de faire des études sur la peur et le mécanisme de la peur, mais qui n'est pas tout à fait le même mécanisme, qui est la peur associative pavlovienne, où on arrive à justement associer des situations avec des menaces pour les animaux et qui font appel plutôt à des phénomènes de mémoire associative. Et elles impliquent plutôt le système limbique et le système notamment amygdalien, qui est bypassé ici. C'est-à-dire que dans cette étude, c'est une peur innée qui est sous contrôle cortical, mais qui ne fait pas appel au système de la peur associative pavlovienne comme on l'utilise à 99% dans les laboratoires, je dirais.
L'originalité de cette étude, c'est qu'elle se penche sur un mécanisme de peur très difficile à étudier. Et pour ça, les chercheurs ont reproduit une situation stressante que les souris pourraient vivre dans la nature, l'attaque d'un oiseau prédateur. Évidemment, ils n'ont pas lancé un faucon sur des souris sans défense. Ils ont produit une ombre en mouvement qui grossit en mimant le piquet d'un rapace qui fond sur sa proie. Bien sûr, les souris affolées partaient se cacher, mais leur refuge était bloqué par une barrière. L'objectif, les forcer à apprendre que cette ombre ne prédit pas un danger. Il aura fallu 30 à 50 simulations pour que les souris cessent d'avoir peur, une situation qui ne peut pas arriver dans la nature, évidemment. On sait donc que ces peurs instinctives peuvent être dominées, mais que se passe-t-il dans le cerveau? C'est justement la deuxième étape de cette expérience. L'équipe a identifié une zone du cerveau appelée noyau géniculé ventrolatéral, ou VLGN, qui pourrait jouer un rôle dans la suppression de la peur. Alors ils ont utilisé l'optogénétique, c'est une technique qui rend les neurones sensibles à des signaux lumineux. Ils ont donc introduit des fibres optiques dans le cerveau des souris pour activer ou inhiber cette zone. Ils ont prouvé que le VLGN joue bien un rôle dans l'apprentissage de la non-peur face à une menace visuelle. Ce VLGN servirait en fait à se souvenir de l'inoffensivité de l'objet vu et à inhiber la sensation de peur. Il y a donc un apprentissage qui passe par cette structure cérébrale. Quand on la désactive, la peur revient immédiatement.
Quand on est dans des labos depuis un petit moment, on sait à quelle quantité de travail ça représente. Et là, je peux vous dire que mobiliser, je pense, 5 ou 6 techniques différentes à cette échelle-là, avec ce nombre d'animaux-là et ce nombre de groupes contrôle-là, c'est un travail pour un labo de 10 personnes pendant 5 ou 6 ans, on va dire. Il y a quand même relativement peu d'auteurs, donc on se dit que c'est quand même un travail qui doit être long-lasting, c'est-à-dire quelque chose qui a été fait dans la durée. Et donc effectivement, c'est publié dans Science, qui est probablement une des cibles de choix de tous les neuroscientifiques, mais c'est une quantité de travail qui met la barre très très haut. C'est-à-dire qu'il faut imaginer travailler très longtemps pour arriver à faire un travail comme ça. Donc c'est un peu effrayant aussi. Il est très illustratif de ce qu'on peut faire en ce moment sur en termes de dissection de voix fonctionnelle dans un animal associé à un comportement. Donc c'est une très très belle étude de mon point de vue en tout cas.
Ce travail a été effectué sur des souris bien sûr, mais ce type de décryptage permet de mieux comprendre les voies qui entraînent la peur. C'est un pas de plus dans la recherche de traitement de l'anxiété généralisée ou encore des troubles associés au trauma, puisque malheureusement ce sont des pathologies pour lesquelles on possède pour le moment très peu de remèdes pharmacologiques.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, merci à la réalisation à Anna Holweck et à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.